Lorsque M. Gault eut quitté le faux espagnol, il revint par le parloir à son greffe et alla trouver Bibi Lupin, qui, depuis 20 minutes que Jacques Collin était descendu de sa cellule, observait tout, tapi contre une des fenêtres donnant sur le préau par un Judas. « Aucun d'eux ne l'a reconnu, » dit M. Gault. « Et Napolitas, qui les surveille tous, n'a rien entendu. Le pauvre prêtre, dans son accablement cette nuit, n'a pas dit un mot qui puisse faire croire que sa soutane cache Jacques Collin. « Ça prouve qu'il connaît bien les prisons, » répondit le chef de la police de sûreté. Napolitas, secrétaire de Bibi Lupin, inconnu de tous les gens en ce moment détenus à la conciergerie, il jouait le rôle du fils de famille accusé de faux. « Enfin, il demande à confesser le condamné à mort, » reprit le directeur. « Voici notre dernière ressource, » s'écria Bibi Lupin. « Je n'y pensais pas. Théodore Calvi, ce Corse, est le camarade de chaîne de Jacques Collin. Jacques Collin lui faisait auprès, m'a-t-on dit, de bien belles patarasses. » Les forçats se fabriquent des espèces de tampons qu'ils glissent entre leur anneau de fer et leur chair, afin d'amortir la pesanteur de la manicle sur leurs chevilles et leurs coups de pied. Ces tampons, composés d'étoupe et de linge, s'appellent au bagne des patarasses. « Qui veille le condamné ?» demanda Bibi Lupin à M. Gault. « C'est Cœur la Virole !»« Bien, je vais me poser en gendarme, j'y serai. Je les entendrai, je réponds de tout. » « Ne craignez-vous pas, si c'est Jacques Collin, d'être reconnu et qu'il ne vous étrangle ?» demanda le directeur de la conciergerie à Bibi Lupin. « En gendarme, j'aurai mon sabre, » répondit le chef. « D'ailleurs, si c'est Jacques Collin, il ne fera jamais rien pour se faire gerber à la passe. Et si c'est un prêtre, je suis en sûreté. » « Il n'y a pas de temps à perdre, » dit alors M. Gault. « Il est 8h30. » Le père Sauteloup vient de lire le rejet du pourvoi. Monsieur Sanson attend dans la salle l'ordre du parquet. Oui, c'est pour aujourd'hui. Les hussards de la veuve, autre nom, nom terrible, de la mécanique, sont commandés, répondit Bibi Lupin. Je comprends cependant que le procureur général hésite. Ce garçon s'est toujours dit innocent. Il n'y a pas eu, selon moi, de preuves convaincantes contre lui. C'est un vrai Corse, reprit Monsieur Gault. Il n'a pas dit un mot. Il a résisté à tout. Le dernier mot du directeur de la conciergerie au chef de la police de sûreté contenait la sombre histoire des condamnés à mort. Un homme que la justice a retranché du nombre des vivants appartient au parquet. Le parquet est souverain. Il ne dépend de personne. Il ne relève que de sa conscience. La prison appartient au parquet. Il en est le maître absolu. La poésie s'est emparée de ce sujet social, éminemment propre à frapper les imaginations. Le condamné à mort. La poésie a été sublime. La prose n'a d'autre ressource que le réel. Mais le réel est assez terrible comme il est pour pouvoir lutter avec le lyrisme. La vie du condamné à mort qui n'a pas avoué ses crimes ou ses complices est livrée à d'affreuses tortures. Il ne s'agit ici ni de brodequins qui brisent les pieds, ni d'eau ingurgitée dans l'estomac, ni de la distension des membres au moyen d'affreuses machines, mais d'une torture sournoise, et pour ainsi dire négative. Le parquet livre le condamné tout à lui-même. Il le laisse dans le silence et dans les ténèbres avec un compagnon, un mouton, dont il doit se défier. L'aimable philanthropie moderne croit avoir deviné l'atroce supplice de l'isolement. Elle se trompe. Depuis l'abolition de la torture, le parquet, dans le désir bien naturel de rassurer les consciences déjà bien délicates des jurés, avait deviné les ressources terribles que la solitude donne à la justice contre le remords. La solitude, c'est le vide, et la nature morale en a tout autant d'horreur que la nature physique. La solitude n'est habitable que pour l'homme de génie qui la remplit de ses idées, fille du monde spirituel, ou pour le contemplateur des œuvres divines qui la trouve illuminée par le jour du ciel, animée par le souffle et par la voix de Dieu. Hormis ces deux hommes, si voisin du paradis. La solitude est à la torture ce que le moral est au physique. Entre la solitude et la torture, il y a toute la différence de la maladie nerveuse à la maladie chirurgicale. C'est la souffrance multipliée par l'infini. Le corps touche à l'infini par le système nerveux, comme l'esprit y pénètre par la pensée. Aussi, dans les annales du parquet de Paris, compte-t-on les criminels qui n'avouent pas. Cette sinistre situation, qui prend des proportions énormes dans certains cas, en politique par exemple, lorsqu'il s'agit d'une dynastie ou de l'État, aura son histoire à sa place dans la comédie humaine. Mais ici la description de la boîte en pierre, où, sous la Restauration, le parquet de Paris gardait le condamné à mort, peut suffire à faire entrevoir l'horreur des derniers jours d'un suppliciable. Avant la Révolution de Juillet, il existait à la Conciergerie, et il y existe encore aujourd'hui d'ailleurs, la chambre du condamné à mort. Cette chambre, adossée au greffe, en est séparée par un gros mur tout en pierre de taille, et elle est flanquée à l'opposite par le gros mur de 7 ou 8 pieds d'épaisseur qui soutient une portion de l'immense salle des Pas-Perdus. On y entre par la première porte, qui se trouve dans le long corridor sombre où le regard plonge quand on est au milieu de la grande salle voûtée du guichet. Cette chambre sinistre tire son jour d'un soupirail, armé d'une grille formidable, et qu'on aperçoit à peine en entrant à la Conciergerie, car il est pratiqué dans le petit espace qui reste entre la fenêtre du greffe à côté de la grille du guichet et le logement du greffier de la Conciergerie, que l'architecte a plaqué comme une armoire au fond de la cour d'entrée. Cette situation explique comment cette pièce, encadrée par 4 épaisses murailles, a été destinée, lors du remaniement de la Conciergerie, à ce sinistre et funèbre usage. Toute évasion y est impossible. Le corridor, qui mène au secret et au quartier des femmes, débouche en face du poêle, où gendarmes et surveillants sont toujours groupés. Le soupirail, seule issue extérieure, situé à 9 pieds au-dessus des dalles, donne sur la première cour gardée par les gendarmes en faction à la porte extérieure de la Conciergerie. Aucune puissance humaine ne peut attaquer les gros murs. D'ailleurs, un criminel condamné à mort est aussitôt revêtu de la camisole, vêtement qui supprime, comme on le sait, l'action des mains. Puis il est enchaîné par un pied à son lit de camp. Enfin, il a pour le servir et le garder un mouton. Le sol de cette chambre est dallé de pierres épaisses, et le jour est si faible qu'on y voit à peine. Il est impossible de ne pas se sentir gelé jusqu'aux os en entrant là, même aujourd'hui. Quoique depuis 16 ans, cette chambre soit sans destination par suite des changements introduits à Paris dans l'exécution des arrêts de la justice. Voyez-y le criminel, en compagnie de ses remords, dans le silence et les ténèbres, deux sources d'horreur. Et demandez-vous si ce n'est pas à devenir fou. Quelle organisation que celle dont la trempe résiste à ce régime, auquel la camisole ajoute l'immobilité, l'inaction. Théodore Calvi, ce Corse, alors âgé de 27 ans, enveloppé dans les voiles d'une discrétion absolue, résistait cependant depuis 2 mois à l'action de ce cachot et au bavardage captieux du mouton. Voici le singulier procès criminel où le Corse avait gagné sa condamnation à mort. Quoiqu'elle soit excessivement curieuse, cette analyse sera très rapide. Il est impossible de faire une longue digression au dénouement d'une scène déjà si étendue et qui n'offre pas d'autre intérêt que celui dont est entouré Jacques Collin, espèce de colonne vertébrale qui, par son horrible influence, relie pour ainsi dire le père Goriot à Illusion perdue et Illusion perdue à cette étude. L'imagination du lecteur développera d'ailleurs ce thème obscur qui causait, en ce moment, bien des inquiétudes aux jurés de la session où Théodore Calvi avait comparu. Aussi, depuis 8 jours que le pourvoi du criminel était rejeté par la Cour de cassation, M. de Granville s'occupait-il de cette affaire et suspendait-il l'ordre d'exécution de jour en jour? tant il tenait à rassurer les jurés en publiant que le condamné, sur le seuil de la mort, avait avoué son crime. Une pauvre veuve de Nanterre, dont la maison était isolée dans cette commune, située, comme on sait, au milieu de la plaine infertile qui s'étale entre le Mont Valérien, Saint-Germain, les collines de Sartrouville et d'Argenteuil, avait été assassinée et volée quelques jours après avoir reçu sa part d'un héritage inespéré. Cette part se montait à 3 000 francs, à une douzaine de couverts, une chaîne, une montre en or et du linge. Au lieu de placer les 3 000 francs à Paris, comme le lui conseillait le notaire du marchand de vin décédé, de qui elle héritait, la vieille femme avait voulu tout garder. D'abord, elle ne s'était jamais vue tant d'argent à elle. Puis, elle se défiait de tout le monde en toute espèce d'affaires, comme la plupart des gens du peuple ou de la campagne. Après de mûres causeries avec un marchand de vin de Nanterre, son parent et parent du marchand de vin décédé, cette veuve s'était résolue à mettre la somme en viager, à vendre sa maison de Nanterre et à aller vivre en bourgeoise à Saint-Germain. La maison où elle demeurait, accompagnée d'un assez grand jardin enclos de mauvaises palissades, était l'ignoble maison que se bâtissent les petits cultivateurs des environs de Paris. Le plâtre et les moellons, extrêmement abondants à Nanterre, dont le territoire est couvert de carrières exploitées à ciel ouvert, avaient été, comme on le voit communément autour de Paris, employés à la hâte et sans aucune idée architecturale. C'est presque toujours la hutte du sauvage civilisé. Cette maison consistait en un rez-de-chaussée et un premier étage, au-dessus duquel s'étendaient des mansardes. Le carrier, mari de cette femme et constructeur de ce logis, avait mis des barres de fer très solides à toutes les fenêtres. La porte d'entrée était d'une solidité remarquable. Le défunt se savait là, seul, en rase campagne. Et quelle campagne ! Sa clientèle se composait des principaux maîtres maçons de Paris. Il avait donc rapporté les plus importants matériaux de sa maison, bâtie à 500 pas de sa carrière, sur ses voitures qui revenaient à vide. Il choisissait dans les démolitions de Paris les choses à sa convenance et à très bas prix. Ainsi, les fenêtres, les grilles, les portes, les volets, la menuiserie, tout était provenu des dépradations autorisées, de cadeaux à lui faits par ses pratiques, de bons cadeaux bien choisis. De 2 châssis à prendre, il emportait le meilleur. La maison, précédée d'une cour assez vaste, où se trouvaient les écuries, était fermée de murs sur le chemin. Une forte grille servait de porte. D'ailleurs, des chiens de garde habitaient l'écurie, et un petit chien passait la nuit dans la maison. Derrière la maison, il existait un jardin d'un hectare environ. Devenue veuve et sans enfant, la femme du carrier demeurait dans cette maison avec une seule servante. Le prix de la carrière vendue avait soldé les dettes du carrier, mort 2 ans auparavant. Le seul avoir de la veuve fut cette maison déserte où elle nourrissait des poules et des vaches en vendant les œufs et le lait à Nanterre. N'ayant plus de garçon d'écurie, de charretier, ni d'ouvrier carrier que le défunt faisait travailler à tout, elle ne cultivait plus le jardin, elle y coupait le peu d'herbe et de légumes que la nature de ce sol caillouteux y laisse venir. Le prix de la maison et l'argent de la succession pouvant produire 7 à 8 000 francs, cette femme se voyait très heureuse à Saint-Germain, avec 700 ou 800 francs de rente viagère qu'elle croyait pouvoir tirer de ces 8 000 francs. Elle avait eu déjà plusieurs conférences avec le notaire de Saint-Germain, car elle se refusait à donner son argent en viager au marchand de vin de Nanterre qui le lui demandait. Dans ces circonstances, un jour, on ne vit plus reparaître la veuve Pigeot, ni sa servante. La grille de la cour, la porte d'entrée de la maison, les volets, tout était clos. Après 3 jours, la justice, informée de cet état de choses, fit une descente. M. Popineau, juge d'instruction, accompagné du procureur du roi, vint de Paris et voici ce qui fut constaté. Ni la grille de la cour, ni la porte d'entrée de la maison ne portait de traces d'effraction. La clé se trouvait dans la serrure de la porte d'entrée, à l'intérieur. Pas un barreau de fer n'avait été forcé. Les serrures, les volets, toutes les fermetures étaient intactes. Les murailles ne présentaient aucune trace qui pût dévoiler le passage des malfaiteurs. Les cheminées en poterie, n'offrant pas d'issue praticable, n'avaient pu permettre de s'introduire par cette voie. Les faîteaux, sains et entiers, n'accusaient d'ailleurs aucune violence. En pénétrant dans les chambres au premier étage, les magistrats, les gendarmes et Bibi Lupin trouvèrent la veuve Pigeot étranglée dans son lit et la servante étranglée dans le sien, au moyen de leur foulard de nuit. Les 3 000 francs avaient été pris, ainsi que les couverts et les bijoux. Les deux corps étaient en putréfaction, ainsi que ceux du petit chien et d'un gros chien de basse-cour. Les palissades d'enceinte du jardin furent examinées. Rien n'y était brisé. Dans le jardin, les allées n'offraient aucun vestige de passage. Il parut probable au juge d'instruction que l'assassin avait marché sur l'herbe pour ne pas laisser l'empreinte de ses pas, s'il s'était introduit par là. Mais comment avait-il pu pénétrer dans la maison? Du côté du jardin, la porte avait une imposte garnie de 3 barreaux de fer intacts. De ce côté, la clé se trouvait également dans la serrure, comme à la porte d'entrée du côté de la cour. Une fois ces impossibilités parfaitement constatées par M. Popineau, par Bibi Lupin, qui resta pendant une journée à tout observer, par le procureur du roi lui-même et par le brigadier du poste de Nanterre, cet assassinat devint un affreux problème où la politique et la justice devaient avoir le dessous. Ce drame, publié par la Gazette des Tribunaux, avait eu lieu dans l'hiver de 1828 à 1829. Dieu sait quel intérêt de curiosité cette étrange aventure souleva dans Paris. Mais Paris, qui tous les matins a de nouveaux drames à dévorer, oublie tout. La police, elle, n'oublie rien. 3 mois après ces perquisitions infructueuses, une fille publique, remarquée pour ses dépenses par des agents de Bibi Lupin, et surveillée à cause de ses accointances avec quelques voleurs, voulut faire engager par une de ses amies 12 couverts, une montre et une chaîne en or. L'ami refusa. Le fait parvint aux oreilles de Bibi Lupin, qui se souvint des 12 couverts, de la montre et de la chaîne d'or volés à Nanterre. Aussitôt les commissionnaires au Mont-de-Piété, tous les receleurs de Paris furent avertis, et Bibi Lupin soumit Manon la Blonde à un espionnage formidable. On apprit bientôt que Manon la Blonde était amoureuse folle d'un jeune homme qu'on ne voyait guère, car il passait pour être sourd à toutes les preuves d'amour de la blonde Manon. Mystère sur mystère. Ce jeune homme, soumis à l'attention des espions, fut bientôt vu, puis reconnu, pour être un forçat évadé, le fameux héros des vendettes corses, le beau Théodore Calvi, dit Madeleine. On lâcha sur Théodore un de ces receleurs à double face, qui servent à la fois les voleurs et la police. Et il promit à Théodore d'acheter les couverts, la montre et la chaîne d'or. Au moment où le ferrailleur de la cour Saint-Guillaume comptait l'argent à Théodore, déguisé en femme, à 10h30 du soir, la police fit une descente, arrêta Théodore et saisit les objets. L'instruction commença sur le champ. Avec de si faibles éléments, il était impossible, en style de parquet, d'en tirer une condamnation à mort. Jamais Calvi ne se démentit. Il ne se coupa jamais. Il dit qu'une femme de la campagne lui avait vendu ses objets à Argenteuil et qu'après les lui avoir achetés, le bruit de l'assassinat commis à Nanterre l'avait éclairé sur le danger de posséder ses couverts, cette montre et ses bijoux, qui d'ailleurs, ayant été désignés dans l'inventaire fait après le décès du marchand de vin de Paris, oncle de la veuve Pigeot, se trouvaient être les objets volés. Enfin, forcé par la misère de vendre ses objets, disait-il, il avait voulu s'en défaire en employant une personne non compromise. On ne put rien obtenir de plus du forçat libéré, qui sut, par son silence et par sa fermeté, faire croire à la justice que le marchand de vin de Nanterre avait commis le crime et que la femme de qui il tenait les choses compromettantes était l'épouse de ce marchand. Le malheureux parent de la veuve Pigeot et sa femme furent arrêtés. Mais, après 8 jours de détention et une enquête scrupuleuse, il fut établi que ni le mari ni la femme n'avaient quitté leur établissement à l'époque du crime. D'ailleurs, Calvi ne reconnut pas, dans l'épouse du marchand de vin, la femme qui, selon lui, lui aurait vendu l'argenterie et les bijoux. Comme la concubine de Calvi, impliquée dans le procès, fut convaincue d'avoir dépensé 1 000 francs environ depuis l'époque du crime jusqu'au moment où Calvi voulut engager l'argenterie et les bijoux, de telles preuves parurent suffisantes pour faire envoyer aux assises le forçat et sa concubine. Cet assassinat étant le 18e commis par Théodore, il fut condamné à mort, car il parut être l'auteur de ce crime si habilement commis. S'il ne reconnut pas la marchande de vin de Nanterre, il fut reconnu par la femme et par le mari. L'instruction avait établi, par de nombreux témoignages, le séjour de Théodore à Nanterre pendant environ 1 mois. Il y avait servi les maçons, la figure enfarinée de plâtre et mal vêtue. À Nanterre, chacun donnait 18 ans à ce garçon qui devait avoir nourri ce poupon, comploté, préparé ce crime, pendant 1 mois. Le parquet croyait à des complices. On mesura la largeur des tuyaux pour l'adapter au corps de Manon la Blonde, afin de voir si elle avait pu s'introduire par les cheminées. Mais un enfant de 6 ans n'aurait pu passer par les tuyaux en poterie par lesquels l'architecte moderne remplace aujourd'hui les vastes cheminées d'autrefois. Sans ce singulier et irritant mystère, Théodore eût été exécuté depuis 1 semaine. L'aumônier des prisons avait, comme on l'a vu, totalement échoué. Cette affaire et le nom de Calvi dut échapper à l'attention de Jacques Collin, alors préoccupé de son duel avec Contenson, Corentin et Peyrade. Trompe-la-Mort essayait d'ailleurs d'oublier le plus possible les amis et tout ce qui regardait le palais de justice. Il tremblait d'une rencontre qu'il aurait mis face à face avec un Fanandel, par qui le dab se serait vu demander des comptes impossibles à rendre. Le directeur de la conciergerie alla sur-le-champ au parquet du procureur général et y trouva le premier avocat général causant avec M. de Granville et tenant l'ordre d'exécution à la main. M. de Granville, qui venait de passer toute la nuit à l'hôtel de Sérisy, quoique accablé de fatigue et de douleur, car les médecins n'osaient encore affirmer que la comtesse conserverait sa raison, était obligé, par cette exécution importante, de donner quelques heures à son parquet. Après avoir causé un instant avec le directeur, M. de Granville reprit l'ordre d'exécution à son avocat général et le remit à Gault. « Que l'exécution ait lieu, dit-il, à moins de circonstances extraordinaires que vous jugerez. Je me fie à votre prudence. On peut retarder le dressage de l'échafaud jusqu'à 10h30. Il vous reste donc 1 heure. Dans une pareille matinée, les heures valent des siècles, et il tient bien des événements dans 1 siècle. Ne laissez pas croire à un sursis. Qu'on fasse la toilette s'il le faut, et s'il n'y a pas de révélation, remettez l'ordre à Samson à 9h30. Qu'il attende. » Au moment où le directeur de la prison quittait le cabinet du procureur général, il rencontra sous la voûte du passage qui débouche dans la galerie M. Camusot qui s'y rendait. Il eut donc une rapide conversation avec le juge. Et après l'avoir instruit de ce qui se passait à la conciergerie, relativement à Jacques Collin, il y descendit pour opérer cette confrontation de Trompe-la-Mort et de Madeleine. Mais il ne permit au soi-disant ecclésiastique de communiquer avec le condamné à mort qu'au moment où Bibi Lupin, admirablement déguisé en gendarme, eut remplacé le mouton qui surveillait le jeune Corse. On ne peut pas se figurer le profond étonnement des 3 forçats en voyant un surveillant venir chercher Jacques Collin pour le mener dans la chambre du condamné à mort. Ils se rapprochèrent de la chaise où Jacques Collin était assis par un bond simultané. « C'est pour aujourd'hui, n'est-ce pas, monsieur Julien ?» dit Fil de Soie au surveillant. « Mais oui, Charlot est là !» répondit le surveillant avec une parfaite indifférence. Le peuple et le monde des prisons appellent ainsi l'exécuteur des hautes œuvres de Paris. Ce sobriquet date de la Révolution de 1789. Ce nom produisit une profonde sensation. Tous les prisonniers se regardèrent entre eux. « C'est fini, » répondit le surveillant. « L'ordre d'exécution est arrivé à M. Gault, et l'arrêt vient d'être lu. » Ainsi, reprit la Pouraille, la belle Madeleine a reçu tous les sacrements. Il avala une dernière bouffée d'air. « Pauvre petit Théodore !» s'écria le Biffon. « Il est bien gentil. C'est dommage d'éternuer dans le son à son âge. » Le surveillant se dirigeait vers le guichet en se croyant suivi de Jacques Collin. Mais l'Espagnol allait lentement, et quand il se vit à 10 pas de Julien, il parut faiblir et demanda par un geste le bras de la Pouraille. « C'est un assassin !» dit Napolitas au prêtre en montrant la Pouraille et offrant son bras. « Non, pour moi, c'est un malheureux !» répondit Trompe-la-Mort avec la présence d'esprit et l'onction de l'archevêque de Cambrai. Et il se sépara de Napolitas, qui du premier coup d'œil lui avait paru très suspect. « Il est sur la première marche de l'abbaye de Mont-à-Regret, mais j'en suis le prieur. Je vais vous montrer comment je sais m'entifler avec la cigogne. » rouait le procureur général. « Je veux cromper cette Sorbonne de ses pattes. » « À cause de sa montante ?» dit Fil de Soie en souriant. « Je veux donner cette âme au ciel !» répondit avec componction Jacques Collin en se voyant entouré par quelques prisonniers. Et il rejoignit le surveillant au guichet. « Il est venu pour sauver Madeleine, » dit Fil de Soie. « Nous avons bien deviné la chose. Quelle dabe !»« Mais comment ? Les hussards de la guillotine sont là. Il ne le verra seulement pas !» reprit le Biffon. « Il a le boulanger pour lui !» s'écria la Pouraille. « Lui, poisser nos Philippe ? Il aime trop les amis. Il a trop besoin de nous. On voulait nous mettre à la manque pour lui, nous le faire livrer. Nous ne sommes pas des gnolles. S'il crompe sa Madeleine, il aura ma balle, mon secret. » Ce dernier mot eut pour effet d'augmenter le dévouement des trois forçats pour leur dieu, car en ce moment, leur fameux dabe devint toute leur espérance.